Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonjour Aude.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
À la une, restaurants, cafés, hôteliers, tous disent stop au confinement.
Contrairement aux magasins de jouets, ils devraient rester porte close le 1er décembre. L'UMI, syndicat des professionnels du secteur, a engagé un recours devant le Conseil d'État. Deux établissements sur trois craignent de fermer pour de bon d'ici la fin de l'année si la situation perdure, selon lui. Manifestation de plus d'un millier de personnes hier à Nice. Plusieurs centaines à Marseille. Dominique Girardin est gérante d'un hôtel-restaurant dans la cité phocéenne.
Moi, je veux juste travailler. Je veux juste pouvoir réouvrir début décembre. Parce qu'il faut savoir que décembre, pour des restaurants, c'est une période très importante de repas de société. Enfin, on a tous les repas de fin d'année. Alors, c'est sûr qu'on ne prendrait pas des tables de 12. Hein. On limiterait à des tables de 6 en respectant, bien évidemment, le protocole sanitaire. Mais c'est une perte monumentale. On a déjà perdu tout septembre, tout octobre, avec la foire, le Marseille Cassis. Enfin, bref, c'est une année blanche pour nous. Donc, il faut tenir le coup, coûte que coûte. Et certains jours, on est démoralisé parce qu'on ne sait pas où on va. En fait, c'est cette sensation d'indéfini. Depuis septembre, un jour, on nous a donné une gifle. Le lendemain, un coup de fouet. Le surlendemain, un coup de poing. Chaque semaine a mené son lot de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas moyen de se dire, bon, allez, à cette période-là, on va pouvoir repartir, puisque chaque semaine, ils nous sortent un nouveau lapin du chapeau. Et ce ne sont pas des magiciens, leurs lapins sont pourris.
Des propos recueillis par Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Il va falloir vivre avec le virus sur le temps long, prévient le Premier ministre. Jean Castex prépare un ensemble de règles pour le pays en attendant l'arrivée d'un vaccin. Une certitude, selon lui, les rassemblements festifs et familiaux dans les salles de fête ne pourront pas reprendre avant longtemps. Sentons enfin les premiers effets du confinement. Légère baisse des cas graves en réanimation. C'est la première fois au cours de cette deuxième vague. Il reste tout de même 4855 malades toujours soignés dans ces services. Santé publique France déplore aussi 359 morts du Covid ces dernières 24 heures.
Et pendant ce temps, Aude, les premiers centres de tests antigéniques ouvrent leurs portes.
Dépister, c'est le nerf de la guerre dans cette lutte contre le coronavirus. Pour désengorger les laboratoires, ces tests rapides peuvent maintenant être pratiqués dans les 4 jours suivant les premiers symptômes. Technique par écouvillon, mais beaucoup plus rapide. Reportage dans une pharmacie de Tourcoing signée Antoine Decarne.
Bonjour madame.
Première étape, l'enregistrement pour Jason. C'est son premier test antigénique.
Avez-vous des pathologies? Tout va bien.
Il vous restera juste à passer dans la petite salle du fond.
Une salle dédiée uniquement aux tests ou en blouse, sur blouse et visière intégrale. Grégoire Chouraki, le responsable de la pharmacie vitale de Tourcoing-Latin.
Le test il se présente comme ceci. C'est une petite cassette. Dès que j'aurai fini de tester au niveau du nez, vous laisserez patienter à l'extérieur et dans les 5 à 10 minutes, vous avez le résultat. Alors c'est parti, vous vous mettez bien au fond, voilà, c'est fini.
C'est hyper rapide, ouais, c'est clair. Un petit coup de téléphone, un rendez-vous, on sort du boulot, tac, on va faire un tour à la pharmacie, clic, clac, un quart d'heure, réglé.
Pour Jason, le test est négatif, il peut repartir tranquillement, ce qui n'est pas le cas lors d'un test positif.
Immédiatement, on fait la déclaration sécurité sociale et on dit à la personne de ne plus bouger de chez elle. Le but, c'est pas ensuite de repartir faire un test PCR dans la foulée.
Et depuis 3 semaines, la pharmacie de Grégory Chouraki multiplie les tests. Aujourd'hui, il est particulièrement convaincu.
C'est plus qu'utile. C'est ce qui nous a manqué lors de la première vague. Ça permet de tout de suite briser la chaîne.
Et même si depuis le confinement, le nombre de personnes venant se faire tester diminue, à l'approche des fêtes de Noël, le pharmacien s'attend à une plus grande affluence.
Antoine Decarne dans les Hauts-de-France pour RTL. Une méga fête clandestine organisée dans la nuit de vendredi à samedi à Joinville-le-Pont. Environ 300 personnes se sont entassées dans un loft sans respect des gestes barrières. La police intervenue sur place a été la cible de jets de projectiles lors du face-à-face. Un convive a été blessé. Transporté à l'hôpital, il a aussi été testé positif au coronavirus. Une enquête est ouverte.
Direction à présent les États-Unis, c'était un peu leur baroud d'honneur hier. Les supporters de Donald Trump ont crié leur colère.
Une marée de drapeaux américains et de pancartes alto vol ont envahi les rues de Washington. Environ 10 000 partisans du président sortant ont défilé à quelques encablures de la Maison-Blanche pour dénoncer à nouveau une fraude électorale, Sinamir.
Sur beaucoup de pancartes, oui, on a pu voir par exemple un peu partout ce message amer « Vous ne volerez pas mon vote ». Sur d'autres, des caricatures de Joe Biden, parfois grimées en grand timonier.
C'est une occasion pour nous qui soutenons notre président de faire une sorte de solidarité.
Cette longue parade des partisans de Donald Trump a pris une forme d'exutoire aussi, comme si ces milliers de drapeaux rassemblés n'arrivaient pas à se résoudre à la défaite. Après une campagne très intense, une élection aussi particulière, Steven, comme beaucoup, est venu de loin. Il a fait 400 km dans la journée pour être à Washington.
Dans mon cœur, j'accepte qu'il a perdu. L'écart dépasse la probabilité que la perte est grâce à des votes par poste. Alors, le défi, évidemment, pour lui, c'est de faire une preuve. Mais je me rappelle très très clairement en 2000. Parce que là, il fallait attendre 36 jours à peu près pour savoir le résultat final. Donc 10 jours, c'est rien.
Cet espoir de retournement judiciaire n'arrive toujours pas à être concrétisé par le camp Trump, mais il aura porté ses milliers de manifestants jusqu'au pied de la Cour suprême, théâtre de longs face-à-face tendus mais très contrôlés par la police avec une centaine de militants antifa.
Sinamir, envoyé spécial à Washington pour RTL. Seul état où un recomptage est annoncé, la Géorgie. L'écart y est très serré entre les deux candidats, mais cela ne risque pas de changer l'issue de l'élection. Joe Biden a remporté 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Et puis toujours à l'étranger, les forces arméniennes doivent commencer ce dimanche leur retrait près du Haut-Karabakh dans la région de Kalbajar, une zone désormais sous contrôle de l'Azerbaïdjan après un accord de paix et des combats meurtriers. Image frappante, des habitants de cette région ont préféré brûler leur maison plutôt que de la laisser aux mains des adversaires. Ils avaient jusqu'à minuit pour partir.
On marque une pause et ensuite nous partons dans les étoiles. S'il vous plaît, SpaceX doit effectuer son tout premier vol commercial vers la Station Spatiale Internationale.
RTL Matin avec Agnès Bonfillon.
Et la suite du journal, Dode Vernuccio, c'est le jour J pour SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk doit envoyer dans l'espace sa capsule Crew Dragon.
Très bon accent, un tournant pour les vols commerciaux. Décollage pour 6 mois de Cap Canaveral en Floride, prévu à 1h49 heure française. À bord de la capsule, 3 astronautes de la NASA. Un vol vers la Station Spatiale Internationale pour les États-Unis. Ça n'était plus arrivé depuis 2011, Sophie Jousselin.
Plus près de 10 ans après le décollage de la dernière navette, cette nuit à bord du Crew Dragon, les 4 astronautes seront vêtus d'une combinaison style super-héros blanche et noire. Elle a été dessinée par un costumier d'Hollywood. On entre dans une nouvelle ère. Le journaliste Antoine Meunier est le créateur du site lachroniquespatiale.com.
À bord, vous n'avez que des écrans tactiles, vous avez quelques leviers, mais c'est infime. Hein. On est rentré dans le vol spatial du 21e siècle. On est dans quelque chose d'ultra-moderne, mais aussi d'esthétique. C'est un peu aussi une volonté d'Elon Musk. On fait un vaisseau qui remplit la mission, mais ça ne doit pas non plus l'empêcher d'être agréable à regarder.
Désormais, 2 vaisseaux emmèneront les astronautes vers la station spatiale, le fameux Soyouz russe en service depuis plus d'un demi-siècle, et donc le Crew Dragon qui devra être aussi fiable.
Le vaisseau Crew Dragon, il y a eu de multiples tests pour assurer une parfaite sécurité des astronautes. On a renforcé le bouclier thermique parce qu'on s'était aperçu que le bouclier était un peu plus érodé que prévu. Vous avez 4 parachutes. Chute hein, quand le vaisseau doit se poser en douceur en mer.
Et Thomas Pesquet s'envolera au printemps prochain à bord de la 2e mission Crew Dragon.
Sophie Jousselin pour RTL.
Redescendons sur Terre, plus précisément sur la pelouse du Stade de la Luce à Lisbonne, où les Bleus se sont qualifiés hier en demi-finale de la Ligue des Nations.
Le soulagement pour les supporters des Bleus, l'équipe de France championne du monde s'est imposée 1-0 hier face au Portugal. Victoire grâce à un but de N'Golo Kanté qui a mené la victoire. Après une lourde défaite face aux Finlandais, Didier Deschamps a retrouvé ses champions et il n'en est pas peu fier.
Ça prouve la qualité de l'équipe de France, la capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous avec beaucoup de maîtrise et face à un tel adversaire, je le répète, c'est une grande fierté pour moi de voir les joueurs comme ça. Ça n'a pas été simple pour certains d'entre eux. On a eu quelques complications aussi dans la préparation, mais s'il fallait répondre présent, c'était ce soir. Ils l'ont fait. Voilà, c'est une grande satisfaction, même si j'avais pas de doute, puisque je les prends, je les connais bien sur le plan humain, leur fierté, leur orgueil et puis la capacité qu'ils ont. Après, ils peuvent les uns et les autres être un peu moins bien, mais voilà, ils sont attachés au maillot de l'équipe de France et l'équipe de France a réalisé une très grosse performance ce soir.
Didier Deschamps au micro de Nicolas Georgerot pour RTL. Autre résultat, dans le même groupe, la Suède a dominé la Croatie 2-1, les Suédois prochains adversaires des Français ce mardi. L'Espagne, leader de son groupe auparavant, se contente d'un nul 1-1 face à la Suisse. L'Allemagne a largement dominé l'Ukraine. La Roja recevra justement les Allemands mardi. Et puis en Formule 1, le Grand Prix de Turquie départ à 11h10 ce matin. Peut-être un 7e titre mondial pour Lewis Hamilton, pour l'instant en 3e ligne. Le Canadien Lance Stroll partira en pole position devant Max Verstappen.
Tout est complet. Merci beaucoup, Aude Vernucci.
Et on termine ce journal par notre sondage au Doxa Winamax pour RTL. Thomas Tuchel dégringole dans l'opinion des amateurs de foot. C'est un lapsus. L'entraîneur du Paris Saint-Germain perd une vingtaine de points en seulement 18 mois. Lui qui avait conquis le public français dès son arrivée dans le club. Mais entre la récente défaite des Parisiens en Ligue des Champions et cette guerre interne entre lui et le directeur sportif Leonardo, eh bien l'image du coach est en train de s'inverser, Jean-Michel Rascol.
Effectivement, l'état de grâce s'éloigne pour l'entraîneur allemand. 81% des amateurs louaient en février 2019 ses qualités de technicien. Ils ne sont plus que 60% aujourd'hui. Tous les critères se sont nettement dégradés. 52% jugent qu'il propose du beau jeu, c'est 27 points de moins. Un amateur de foot sur deux estime qu'il est un bon communicant. Ils étaient 70% il y a 19 mois. Sa faculté à gérer les stars dégringole, son charisme ne fait plus l'unanimité. Résultat, ils ne sont plus que 41% à considérer qu'il est l'homme de la situation pour gagner la Ligue des Champions. Pour l'instant, les supporters renvoient dos à dos Tourelle et Leonardo dans leur opposition déclarée, avec quand même une préférence pour le Brésilien. 65% aimeraient le voir rester à Paris, c'est un peu plus que pour l'Allemand, 58%, dont l'histoire semble s'écrire désormais sans carte blanche.
Jean-Michel Rascol du service des sports d'RTL.
Et cette fois, c'est super complet.
Oui.
Merci beaucoup, Edouard.
C'est la bonne.